Sport matin dimanche, la rediff.
Sport matin dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 mai, vous écoutez Colline, sport matin dimanche, c'est parti, bonjour Jean Grelier.
Bonjour Patrice, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans ce sport matin dimanche de ce 12 mai qui commence à sentir la fin de saison pour plusieurs sports collectifs. C'est le cas en football et nous parlerons de cette victoire vendredi soir des Chamois-Niortais contre Le Mans, victoire qui les relance pour la section en Ligue 2 puisque compte tenu du faux pas de Martigues. Avant-dernière journée complète aussi en National 3, les deux équipes de Sévrienne, Chauray et la réserve des Chamois, comptent toutes les deux sur la dernière journée pour tenter d'éviter cette 11e place qui peut être synonyme de descente, tandis que la Châtaigneraie, avec le point du match nul, assure définitivement son maintien en National 3. En basket, Cholet, grâce à sa victoire hier soir contre Chalon-sur-Saône, est assuré de jouer les play-offs. Et en handball, défaite de l'équipe réserve de National 1 de Celles-sur-Belle face à La Roche-sur-Yon, tandis que les Montcoutantaises se déplacent cet après-midi à Vierzon. Nous parlerons aussi rugby et course à pied. Nous aurons en direct tout à l'heure Alain Bridoué, le président de l'Amicale Sportive de la Châtaigneraie, dans quelques minutes. Alors restez avec nous, à tout de suite.
Quant à la météo, changement de temps hein, par rapport à ces derniers jours, puisque les nuages seront dominateurs ce dimanche et seraient même susceptibles de nous apporter quelques gouttes de pluie, essentiellement ce matin. Du côté des températures, les maximales autour de 19 degrés cet après-midi, accompagnées tout au long de cette journée d'un léger vent.
Sport matin dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toute marque.
SMD, Jean, on commence par le football.
On commence par le football et en Ligue 1, il y avait des matchs vendredi soir puisque Brest, à domicile, a obtenu le match nul face à Reims, un but partout, tandis que le Nice s'imposait face au Havre, un but à zéro. Puis on jouera ce soir à 21h tous les matchs. C'est ainsi que Strasbourg, dans le derby de l'Est, recevra Metz. Marseille accueillera Lorient. Lens se déplacera à Rennes. Paris Saint-Germain, pour la dernière de Kylian Mbappé à domicile, recevra Toulouse. Match de derby entre Montpellier et Monaco. Nantes accueillera Lille dans un match à fort enjeu pour les Nantais pour éviter la relégation et pour Lille pour tenter de s'imposer pour disputer les Coupes d'Europe. Et puis Clermont accueillera Lyon. En Ligue 2, on jouait aussi vendredi soir. Rappelons les résultats. Match nul entre Dunkerque et Caen, deux buts partout. Grenoble s'impose à Ajaccio 2 buts à 1. Match nul entre Amiens et Auxerre 0-0. Paris FC s'impose face à Guingamp 2 buts à 1. Concarneau s'impose à domicile face à Bordeaux 4 buts à 2. Angers, bon résultat d'Angers face à Annecy 2 buts à 1. Bastia s'impose à Pau 2 buts à 1. Match nul entre Saint-Étienne et Rodez 1 but partout. Valenciennes s'impose à Quevilly 2 buts à 1. Et Troyes s'impose à Laval 2 buts à 1.
Toujours en football.
Toujours en football. Donc nous recevons ce matin en direct sur Colline Alain Bridoué, le président de l'Amicale Sportive de la Châtaigneraie. Bonjour président. En toute première question, votre équipe a obtenu hier soir le point du match nul en déplacement à Saint-Philbert-de-Grandlieu, confirmant ainsi son maintien en National 3. Mission accomplie, président.
Bah, tout d'abord, bonjour. Bonjour aux auditeurs et bonjour à vous, Jean. Mission accomplie. Je pense qu'on s'était fixé un objectif de maintien en début de saison. C'est vrai que c'était notre retour en National 3 après un échec il y a deux ans. Donc on s'était un peu plus peut-être mieux préparé pour le maintien. Bon, l'objectif c'était d'en mettre 3 voire 4 derrière nous. Et bon, là c'est acquis suite au match nul de Saint-Philbert. Je pense qu'on a 4-5 équipes derrière nous maintenant officiellement.
Donc vous êtes depuis plus de 20 ans le président emblématique de ce club de la Châtaigneraie. Comment fait-on dans une commune de moins de 3000 habitants pour avoir un club de ce niveau régulièrement en CFA 2 puis maintenant en National 3 depuis de nombreuses années? Quelle est votre recette, Alain Bridoué?
Je pense pas qu'il y ait de recette. Hein. Ça c'est du travail. Alors bon, tout d'abord c'est un loisir. Moi je suis né à la Châtaigneraie, j'ai joué au foot à la Châtaigneraie. J'ai une entreprise aussi à la Châtaigneraie. Je réussis pas tout seul. J'ai des bénévoles, j'ai des artisans, j'ai des dirigeants. Et j'ai des partenaires qui sont souvent des amis qui contribuent bien. Alors bon, nous, la Châtaigneraie, c'est un tout petit club, hein, c'est le deuxième ou troisième plus petit budget de National 3. Mais bon, c'est comme tout, ça, il faut du temps, de la passion, d'énergie, et puis après, ben il faut les joueurs aussi, il faut le coach. Bon, voilà, c'est tous ces ingrédients-là qui font que ben on arrive à encore rivaliser au niveau soit régional ou soit d'un bon niveau national.
Alors justement, quels sont les arguments que vous avez pour convaincre les joueurs de vous rejoindre ou même les coachs pour venir jouer à la Châtaigneraie?
Alors bon, moi j'ai eu la chance d'avoir des très bons coachs, hein, que ce soit Éric Bourget, que ce soit Alain Ferrand, même Franck Monceau. Donc aujourd'hui on a la chance de pouvoir attirer. Alors on a des infrastructures quand même relativement de qualité depuis 5-6 ans avec un synthétique. Bon, Charles Devineau, c'est un exemple, il a joué en 2005 chez nous, 2005-2006. Bon, là, il quittait La Roche. Bon, j'arrive à le convaincre qu'il y avait un projet. Mais bon, nous, on a tout le temps travaillé sur la formation. Alors bon, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais la formation, ça reste l'ADN du club. Aujourd'hui, sur les 17-18 joueurs, il y a 50% de joueurs issus du club ou issus du pays de la Châtaigneraie. Donc bon voilà, c'est notre ADN. Après bon, on fait venir aussi des joueurs qu'on arrive à convaincre avec des projets, hein, des projets comme on fait tous les ans. Et on essaye de pas faire des cours, on essaye de faire des gens ou des joueurs sur la durée, sur des 3 ans, 4 ans et tout ça, pour qu'ils s'intègrent bien et s'intègrent. La chimie un petit peu des joueurs de chez nous plus des joueurs d'expérience et des niveaux supérieurs fait que ben on arrive à avoir une équipe compétitive.
Donc justement maintenant il y a une fameuse réforme en cours des championnats qui était cette année très influente sur les résultats. Comment voyez-vous l'avenir de votre club maintenant dans cette compétition de championnats nationaux, le nombre de clubs, le nombre de descentes, comment voyez-vous un petit peu cet avenir dans les championnats nationaux?
Là, ça va être compliqué à terme. Bon, on était à 12 poules de 14 en National 3. À terme, à fin 2026, on va rester à 8 poules de 14. Donc, ce que veut la fédération, c'est bon que des villes importantes ou des réserves de clubs pro. Bon, est-ce que nous, on a notre place dans des championnats comme ça? Je sais pas, on va voir au fil des années. Bon, on va travailler pour. Bon, maintenant, si on redescend en R1 dans les années à venir, ben voilà, ça sera une petite CFO2 ou une petite National 3, comme on peut l'appeler. Bon, il faut rester le plus longtemps possible en National 3, je pense. Donc, l'année prochaine, on va essayer de tout faire pour encore. Mais bon, il y a encore 4 descentes, donc c'est quand même très, très compliqué. Mais voilà, mais on fera pas n'importe quoi. On n'a jamais fait n'importe quoi. On a une DNCG qui est très très pointilleuse et au-dessus de nous, qui nous remet en place si on s'écarte. Hein, donc le contrôle des clubs au niveau gestion. Bon, pour l'instant, depuis 20 ans, le club n'a jamais eu de problème financier et je veux surtout pas qu'on en ait de problème financier. Si on peut pas y arriver, on n'y arrivera pas. C'est pas non plus une catastrophe, mais bon, on fera tout pour y arriver, mais en restant dans un budget très raisonnable.
Alors justement, dans la préparation de la saison 2024-2025, avez-vous un scoop ou des infos à nous donner? Charles Devineau sera-t-il toujours le coach? Avez-vous d'ores et déjà des pistes pour que des joueurs rejoignent votre club et quelles sont vos priorités?
Alors pour vous répondre, bon, Charles Devineau était venu sur un contrat de 3 ans. L'année dernière, donc il a fait remonter le club en National 3. L'objectif c'était aussi de maintenir cette année l'équipe en National 3. Bon, on a 5 équipes seniors, hein, donc c'est pas rien. On a des très très bons résultats aussi avec la R3, la D2, la D4 qui monte en D3, la D5. Donc on a vraiment un vivier de joueurs Très intéressant. Alors pour jouer en National 3, c'est sûr que bon, il faut des joueurs d'expérience, comme on l'a fait cette année. On a recruté 2 ou 3 joueurs. Donc l'année prochaine, on va déjà voir la stabilité de l'effectif pour essayer d'avoir un effectif le plus stable possible. Et la meilleure recrue, vous savez, c'est de garder les joueurs. Chercher des joueurs ou changer 2 ou 3 joueurs ou 4-5 joueurs tous les ans, c'est jamais. C'est pour ma devise, donc j'aime bien stabiliser l'effectif et puis après ben, toucher peut-être 1 ou 2 joueurs qui ont joué en National 2 comme on a fait les années passées. Mais bon, Charles a un contrat jusqu'en 2025, bon, on va essayer de le prononcer un petit peu. Mais bon, aujourd'hui, la Chétainerie, c'est un club où il faut pas tirer trop... Trop de plans sur la comète, comme on dit. On va être humble et puis essayer d'y aller année par année et sans faire n'importe quoi.
Alors cette prochaine saison là qui arrive va marquer aussi une date importante. C'est le 100e anniversaire de votre club qui a été créé en 1925. Alors y aura-t-il des événements particuliers ou des objectifs nouveaux comment vous voyez cette saison importante quand même, un 100e anniversaire, ça se marque?
Ben bon, ça se marque parce que bon, moi j'ai une équipe de dirigeants qui est fabuleuse. Hein. Moi je dirige le club parce qu'il en faut un. Bon, moi je suis le garant un petit peu de la partie financière et du fonctionnement. Bon, les 100 ans, c'est la Châtellerie, c'est le 3e plus vieux club vendéen. Hein, donc c'est quand même pas rien. Moi je veux qu'on remercie tous les bénévoles, les dirigeants et tout ça, tous ceux qui ont fait vivre le club depuis des années et des années. Moi je connais le club depuis pas loin de 55 ans. Voilà, il y a plein de choses à faire. On travaille sur l'événement qui va être sur une journée qui est normalement le 28 juin 2025 pour ben, remercier surtout tous ceux qui sont passés dans le club. Et je peux vous dire qu'il y est passé énormément de monde, hein, beaucoup de joueurs, beaucoup de dirigeants, des bénévoles et des supporters aussi. Hein, et donc ça sera une fête pour tout le monde.
Alors justement, quand on parle de club, une petite question complémentaire qui est d'actualité. Là, comment, en tant que président de Châtellerault, ressentez-vous les projets du club de La Roche-sur-Yon de vouloir se transformer en Vendée Football Club? Est-ce que c'est vraiment une bonne solution?
Bon, Christophe Chabot, je le connais depuis quasiment 25-30 ans quand il était président à Bretignolles. On se connaît bien, on a échangé ensemble. Qui est un club phare sur la Vendée qui joue en National ou en Ligue 2, bah, je pense que tout le monde est derrière ce projet-là. S'attribuer Vendée Football, je pense que c'est pas une bonne solution. Du moins, c'est ma position. Ça peut rester comme ça, mais je pense qu'il va attirer d'autres entreprises s'il monte en National, voire en Ligue 2. Mais le nom Vendée Football tout seul, je pense que, comme beaucoup de présidents, on n'est pas spécialement d'accord sur l'identité de Vendée. Hein, parce que ben, la Vendée, elle appartient à tout le monde. Et donc aujourd'hui, on a aussi notre mot à dire. Et on doit aussi respecter nos clubs à nous. Et on s'appelle, nous, la SC Vendée Football. Ouais. Hein, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a tout résumé dans ce mot-là.
Merci Alain Brilloy d'avoir bien voulu ce matin être en direct donc sur ce Sport Matin Dimanche et Colline la radio. Nous allons vous laisser d'ailleurs rejoindre Saint-Hilaire-de-Riez où cet après-midi l'une de vos équipes réserves joue la finale de la Coupe de Vendée des réserves en vous souhaitant de la ramener dans votre bovine de la Saint-Hilaire.
C'est l'objectif. Là, je vais essayer de les rejoindre rapidement et on va essayer de ramener une coupe supplémentaire au niveau du club. Eh bien, merci et puis très bonne journée.
Merci et puis félicitations pour ce maintien en National 3 et puis bonne saison 2024-2025 pour ce beau centenaire.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci beaucoup Alain Bruet, le président de la Châtellerault depuis 2 décennies maintenant d'avoir été en direct avec nous dans ce SMD.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Sport, matin, dimanche, seconde partie, on continue avec le football et le championnat de national et l'avant-dernière journée ce week-end. Hier soir, Rochelet s'est une nouvelle fois incliné à domicile lors de la réception de Avranches 2-0. Niort jouait à domicile également face au Mans. Belle soirée vendredi pour les Niortais à domicile. Des Chamois qui, s'ils souhaitaient conserver une petite chance de retrouver la Ligue 2 la saison prochaine, une victoire était impérative après 3 défaites consécutives, en surveillant quand même un éventuel revers de Martigues à Dijon, ce qui a été le cas. Victoire des Chamois 2-0, mais ce fut difficile face à une des meilleures formations reçues cette saison à René Gaillard, selon le coach niortais Philippe Nsberger.
Ce soir, franchement, en première mi-temps, j'ai vu la meilleure équipe qui s'est déplacée à René Gaillard cette année. Je vous le dis, moi, c'est mon avis. C'est pas pour flatter ou... Mais sans forfanterie, vraiment, ils nous ont posé des problèmes énormes dans la circulation du ballon et surtout dans nos 30 derniers mètres. J'ai trouvé très, très, très joueur, très habile. Ils ont des situations, des occasions. Paul a été bon. Et nous, c'était dur pour sortir le ballon, le récupérer. Bon, donc j'étais déjà content qu'on arrive à la mi-temps 0-0. Bon. Mot d'ordre en deuxième mi-temps, c'était d'être plus vindicatif défensivement, de faire plus d'efforts, d'être plus prêt. Ça a été un petit peu mieux. Nos attaquants aussi ont fait un... Alors, je peux des fois les critiquer, mais c'est comme ça qu'on les aime. C'est ce que j'aurais dit quand ils sont sortis. Aussi, Sam Brunel aussi, en première mi-temps, que j'ai trouvé énervé, toujours les bras en l'air. Je lui ai dit, c'est pas comme ça qu'on t'aime. On aime Sam comme sa deuxième mi-temps qu'il nous a faite. Voilà. Donc, tout le monde s'est mis, je dirais, un peu plus au service du truc. Et puis, on s'est un peu moins fait confisquer le ballon. Et puis, bon, pour une fois, on marche sur deux coups de pied arrêtés. C'est une belle soirée, on a rempli notre objectif. On s'est donné le droit ce soir de pouvoir rester en alerte, en éveil, voilà, de pouvoir jouer quelque chose à Avranches. Après, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire. En tout cas, je suis content qu'on ait une dernière semaine de travail, un dernier match à faire avec quelque chose au bout, un vrai objectif. Et puis après, écoutez, voilà, le meilleur ira là où il doit aller.
Les Niortais sont donc toujours mathématiquement en course pour retrouver la Ligue 2 la saison prochaine. Les consignes ont été parfaitement respectées lors de ce match vendredi soir, selon l'attaquant des Chamois, Marc Inchaud, qui n'a pas ménagé ses efforts en seconde période pour arriver à ce résultat.
Je pense qu'on a été fort défensivement, on a fait un clean sheet. Big up aux défenseurs pour ces forces qu'ils ont fait. On a été solides ensemble, on n'a pas pris de but et c'est l'essentiel. Je préfère qu'on fasse une mi-temps où on n'a pas le ballon, on joue que les contre-attaques et gagner le match. On a respecté le plan, on les a attendus. Ils sont exposés, on a joué les contre, on a eu un corner, but, deuxième corner, but. Je pense que ça a été dur mentalement d'enchaîner. Deuxième, je pense qu'on a eu un petit coup de mou, mais là il nous reste un match. On a un point de Martigues, on va tout donner au dernier match contre Avranches. Dès lundi, on va tout faire pour motiver l'équipe et se motiver directement pour samedi ou vendredi.
C'est pas complètement bon destin là, parce que si tu gagnes...
Mais c'est pas grave, comme ça. Voilà. Au moins, on essaie de finir sur une bonne note. Là, on l'a fait à la dernière à la maison, ça a fait du bien de gagner 2-0 contre une très belle équipe. Et là, on va tout donner à Avranches, le dernier match entre nous. Ça se trouve, il y a des départs pour ça. On va tout donner notre dernier match ensemble. Qui sait ?
Bien, en face, bien entendu, c'est une grosse... Très, très grosse déception pour l'entraîneur Manceau, Mathieu Chabert, également au micro colline d'Antoine Judith.
Je sais pas comment on fait pour perdre. Mais c'est le foot, hein, c'est comme ça. Hein. Je le dis souvent, on n'est pas payé à la note artistique. Hein. C'est pas comme la gym ou les sports, d'autres sports. Il faut être efficace. On a fait tout ce qu'il fallait excellemment bien, sauf le plus important, la finition. Et quand vous n'êtes pas capable de marquer des buts, vous n'êtes pas à l'abri de prendre un but sur coup de pied arrêté, et même deux. Enfin, il y avait un objectif, c'était de gagner, et on avait bien analysé cette équipe-là, on savait qu'on aurait de la place sur les transitions, on savait qu'on aurait de la place quand on casserait leur premier rideau de pressing, c'est ce qu'on a excellemment fait en première mi-temps. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on n'est pas capable de marquer des buts, et j'en veux pas à mes attaquants, voilà, c'est le plus dur, hein, dans le football, de marquer des buts, c'est pas pour rien que les attaquants sont payés les plus chers, mais voilà, il faut être efficace. Et sans efficacité, vous êtes puni à un moment donné. Ça m'énerve d'être 7e du championnat parce que j'aime pas être dans cette position-là. Donc, on le mérite puisqu'on est là. Donc, c'est comme ça. Ça fait partie. Il faut être efficace. C'est un championnat un peu hybride où il faut être des équipes qui sont costauds avec de l'impact physique comme cette équipe de New York. C'est le prototype de la très bonne équipe de National avec du gabarit, de gros attaquants qui peuvent permettre à l'équipe de jouer bas et qui les soulagent quand ils peuvent garder des ballons. Nous, on est une équipe joueuse, mais il nous manque ces gabarits-là. je pense avec un petit peu plus de taille, on est plus costaud sur coup de pied arrêté, on est plus. Mais bon, c'est comme ça.
La belle victoire, donc Jean, des Chamois, hein, vendredi soir à domicile lors de la réception du Mans. Je rappelle le score, c'était 2-0.
Oui, des Chamois donc qui, suite au faux pas de Martigues, reviennent à un point de la seconde place pour l'accession donc à la Ligue 2. Tout se jouera donc sur le dernier match pour désigner le club qui accompagnera le Red Star l'an prochain dans cette Ligue 2.
Toujours en National 2 cette fois, l'avant-dernière journée également. Hier, facile victoire de la Roche-sur-Yon face à Trélissac, 5-1. Les Herbiers et Libourne se sont séparés sur le score de parité de 2-2. Et puis Saumur s'est imposé, Jean, à domicile en recevant Angers sur le score de 2-1.
Oui, la Roche-sur-Yon est au coude à coude avec Paris 13, ces derniers bénéficiant d'un avantage au goal avérage particulier puisqu'ils ont vaincu deux fois la Roche-sur-Yon. Là aussi, tout se jouera sur le dernier match pour l'accession en National 1. Dernier match important aussi pour Saumur, qui peut encore se sauver et garder sa place en National 2, tandis que les Herbiers ont eu une deuxième partie de championnat plus difficile.
Une avant-dernière journée également de National 3. Hier, Chauray s'est facilement imposé face à Saint-Nazaire, 5-0. Fontenay et Chaland se séparent sur le score de 2-2. Victoire de la réserve de Laval face au Sable, 1-0. Le Poiré s'impose à domicile face à la réserve niortaise, 2-1. Victoire de Sablé face à Château-Gontier, 1-0. Saint-Philbert et la Châtaigneraie ont fait match nul, 1-1. Et puis Jean, eh bien, victoire de Vertou hein, face à Nantes, à la réserve nantaise, 2-0.
Oui, et c'est le Poiré qui a pris la tête de cette poule devant la réserve du FC Nantes et donc est en capacité de monter en National 2 à condition de battre sur le dernier match la lanterne rouge de cette poule, Château-Gontier. Les deux clubs niortais, Chauray et les Chamois, donc, vont tenter d'éviter cette 11e place dont les 4 plus mauvais au niveau national peuvent descendre en plus des 12e, 13e et 14e. Dernière journée donc très importante dans cette poule, compte tenu des enjeux, tant pour la montée que pour les descentes.
En rappel, quart de finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine, le match se jouait mercredi dernier. FC Outize était opposé à Parthenay-Viennet. Eh bien, c'est FC Outize qui s'est imposé au tir au but, puisque les deux formations sont séparées sur le score nul et vierge de 0-0. Victoire donc du FC Outize, 4-2 au tir au but. On passe, Jean, à la Régionale 2.
À la Régionale 2, où on jouait des matchs en retard, donc dès mercredi, puisque le Talus s'est déplacé à Saintes et a obtenu une victoire 2-0. Et match nul entre Beaumont-Saint-Cyr et la réserve de Thouars, 1-1. Hier soir, Périgny, le leader de cette poule A de Régional 2, s'est imposé facilement face à la S13, 8-1. En Régional 2, dans la poule C toujours, match nul mercredi entre la réserve de Chauray et Saint-Émilionnais, 2-0. Et cet après-midi, Échiré-Saint-Gelais se déplace à Merpin. Et puis dans la Régional 3, dans la poule B, cet après-midi, la réserve de Châtellerault accueillera le FC Autise.
Cette semaine était également marquée par les quarts de finale de la Coupe des Deux-Sèvres. Mercredi dernier, victoire de l'Entente Chanteloup-Cours-les-Chapelles face à Saint-Varan-Pierre, 2-1. Victoire du FC Boutonnet face à Bressuire, 3-2. Victoire également du Pays Saint-Mexanté sur la pelouse de Sud-Gâtine, 1-0. Et puis Jean, Gâtifoot s'est imposé à Vraire-Saint-Léger sur le score de 2-0.
Oui, les demi-finales donc opposeront le dimanche 9 juin prochain, le FC 3C, Courlay, Chantou, La Chapelle, au Pays Mexantais. Et Gâtifoot affrontera le FC Boutonnet.
Dans les championnats départementaux, en départemental 1, Le Talus et Hervaux Saint-Jean fait match nul 2-0. C'était mercredi dernier. Hier, victoire de Gâtifoot face à Hervaux Saint-Jean, 2-1. À suivre cet après-midi la rencontre entre Sud-Gâtine et Saint-Varan-Pierger.
Et puis on jouait aussi en départemental 2, la poule Nord, donc un match à rejouer entre les deux équipes cerisiennes, la réserve du CO Cerisay et l'AS portugaise. Match nul, comme d'ailleurs le match à rejouer, 1-0. Et puis cet après-midi, dans la poule Sud de cette départementale 2, Beauvoir accueillera Val-de-Boutonne, le FC Boutonnais se déplacera à Brulin et Mauzé-sur-le-Mignon accueillera le Pays néo-créchois.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
On en arrive au basket et le championnat de Betclic Elite. Dernière journée de la phase régulière. Hier soir, également en direct sur Colline, nous vous offrions la possibilité de suivre et en intégralité la rencontre de Betclic Elite entre Cholet Basket et Chalon-sur-Saône. Coude à coude tout au long du match. Une victoire était impérative pour l'équipe des Mauges pour être dans le top 8, synonyme de play-off. Devant leur public, les Choletais ont fait vibrer la Meilleraie hier soir avec cette victoire ô combien difficile mais précieuse, 84-79. Laurent Villa, l'entraîneur de Cholet Basket, encore pour quelques jours.
Ils n'ont jamais rien lâché, et au contraire ils ont bien joué, ils ont pris l'ascendant par moment avec leur qualité, notamment en attaque. Il a fallu vraiment durcir en défense et s'adapter à leur jeu pour les contenir en deuxième mi-temps. Et puis aussi ajuster notre attaque par moment, parce qu'on a fait beaucoup de tirs, notamment dans le middle range, qui n'était pas efficace. Et bon, ça a été compliqué pour trouver vraiment l'issue de ce match à notre faveur. Ça aurait pu nous échapper parce qu'on n'a pas toujours été adroit. Ils ont trouvé des situations de tir faciles. On a perdu quelques ballons. Et à la fois, on voyait aussi certains joueurs maîtriser le sujet quand ils étaient sur le terrain. Donc c'est clair que en fonction des cinq alignés, il y avait de la maîtrise et parfois un petit peu de questionnement, de doute. Mais en tout cas, on a trouvé la bonne formule à la fin pour finir. Et c'est le plus important. Au-delà de finir en play-off, le plus important, c'est d'optimiser l'équipe qu'on a. Et avec toutes les mésaventures qu'on a eues cette année, finir, je crois, septième du coup, eh bien, c'est fort, parce que si on m'avait dit ça en début de saison, en regardant les rosters adverses, les budgets, ainsi de suite, j'aurais signé tout de suite, quoi. Donc je pense qu'on peut se satisfaire de ce résultat-là, et en effet, des trois playoffs consécutifs pour Cholet Basket, c'est intéressant.
Une belle victoire choletaise donc hier soir, mais il a fallu aller la chercher, cette victoire face à une équipe qui était pourtant amputée de ses joueurs majeurs, selon le meneur choletais Enzo Goudou-Sina, également au micro-colline de Vincent Nori.
C'était pas évident, c'est difficile de jouer des équipes comme ça parce qu'ils étaient relâchés, on l'a bien vu, ils ont mis des tirs, ils ont été à droit. Et en face c'est une bonne équipe, même si leur manquait Antoine Eto et Kenny Baptiste. C'est jamais évident, la pression elle était sur nous, mais on a su de réagir de bonne manière. On avait la tête sur les épaules, on était serein, on n'a pas perdu tant de ballons que ça, même si on a fait quelques erreurs d'inattention. Mais honnêtement, je trouvais que ça allait, j'ai pas ressenti trop de stress, même si la pression, on savait que la pression était sur nous, parce qu'on avait notre destin en main. Donc à partir du moment où t'as ton destin en main, c'est à toi de les mettre sur le terrain, quoi. Peu importe qui tu joues, c'est toujours compliqué, surtout pour un dernier match comme ça, où il y a beaucoup d'enjeux. L'important, c'était surtout de rester en équipe et de jamais baisser les bras, peu importe le score. À un moment, on est derrière et pourtant, on baisse pas les bras. On a cru en nous, et c'est ça qui a peut-être fait la différence avec d'autres matchs où quand on joue contre Blois, etc., ils sont devant au score. Parfois, on pouvait douter un petit peu. Et là, ce soir, on a cru en nous et je pense que c'est ça qui a fait la différence.
Le chemin aura donc été long et loin d'être facile, mais ça y est, c'est fait. Match aller des quarts de finale des playoffs, ce sera à Paris ce mercredi à 20h30. Retour samedi prochain à la Meilleraie, match à 20h. L'éventuel match d'appui se jouera le lundi 20 mai à Paris. On parle toujours basket, Jean.
Oui, en Pro B, on jouait vendredi soir, donc cette dernière journée. Défaite de Poitiers en déplacement à Évreux, 76-64. Fos-sur-Mer s'impose à domicile face à Angers, 75-72. Défaite également de La Rochelle en déplacement à Pau-la-Corthèse, 65-52. Et Vichy-Clermont à domicile s'impose face à Nantes, 94-79. Et puis cet après-midi, on jouera en Régional 3 masculine, demi-finale retour entre Bressuire et la réserve de Coteau du Luy, donc match cet après-midi dans cette demi-finale retour.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Parlons maintenant handball et avant-dernière journée de National 1 féminine. Hier soir, les Celloises se sont inclinées en recevant La Roche-sur-Yon sur le score de 25-28. Toujours chez les filles en National 2, à suivre cet après-midi le déplacement de Montcoutan à Églantine-Vierzon. Chez les filles toujours en National 3 féminine. Hier, Praec s'est incliné de 2 buts face à Borde, 26-28. Et puis à suivre cet après-midi le match entre Tyros et Lezay. Après le handball, le ballon ovale.
Le rugby, effectivement, en top 14 hier soir, match très important pour La Rochelle qui se déplaçait à Bordeaux-Bègles. Malheureusement, défaite de La Rochelle qui peut être très préjudiciable pour les phases finales, puisque La Rochelle s'est inclinée 34 à 14. En Régional 3, Challenge de France, 16e de finale, Saint-Mexant reçoit cet après-midi Douarnenez.
Alors, quelques petites brèves d'athlétisme, Jean.
En athlétisme, oui, signalons le perchiste du Stade Niortais, Valentin Potier, qui participera avec l'équipe des U23 de l'équipe de France aux Jeux méditerranéens en Égypte les 18 et 19 mai prochains, donc la semaine prochaine. Bravo à Valentin Potier pour cette sélection. En course à pied, on rappelle les résultats des courses de la semaine. Le 8 mai, avaient lieu les foulées de l'Autise. Vainqueur du 7 km, Papo de Runignore et Marina Roux, qui prend la 6e place au scratch. Et puis sur la course des 15 km, c'est Roux, un Isérois qui est originaire de Saint-Pourpin, qui s'impose. Et en féminine, c'est Madame Ledoux de Runignore. Rappelons également pour les foulées chapelaises. Qui sont déroulés donc jeudi dernier avec un trio vainqueur du SBAC. Donc Armand Marolo qui assure sa 3e victoire de suite dans cette épreuve devant Steve Milasso et Clément Roulier. Tandis qu'en féminine, c'est Flavie Brémaud, l'entente des Mauges, qui remporte la première place. En athlétisme toujours, c'est aujourd'hui la journée des championnats interclubs. À suivre le résultat ce soir des athlètes du Stade Niortais, tandis que l'équipe du SBAC sera handicapée en termes d'effectifs. En triathlon aussi, Quentin Barreau, l'ancien du triathlon club de Gâtine et désormais à Monaco, s'est imposé sur le triathlon de Frenchman de Carcan en Gironde. Et puis c'est Julien Thomas, l'actuel entraîneur de Saint-Georges-Trémentine, qui succédera la saison prochaine à Sylvain Bachellerie à la tête de l'équipe du Pays de Loing de Mauléon. Et puis enfin, signalons également que la réserve du tennis club Bressuiret a décroché sa montée en Régional 1 après avoir battu l'équipe de Poitiers, un nouveau challenge donc pour l'équipe d'Adrien Lemoine.